Peut-être question, j'y réponds tout de suite. Hein. Pourquoi limitons-nous notre recherche artistique à la peinture, poésie, musique, sculpture, tragédie, etc., au lieu de prendre aussi en compte l'art médical, stratégique et sportif? Rien n'est exclu, mais on prend exprès, comme d'une façon générale, au point de vue philosophique, il faut prendre les expériences les plus typiques. Vous voyez, au fond, les expériences les plus typiques au point de vue de l'art, c'est d'une part l'art artisanal, ce que nous avions vu surtout en étudiant le point de vue des différents moments de l'activité artistique, et puis l'activité poétique, peinture. Parce que c'est là où l'activité est la plus explicite. Et quand je prends l'art médical, alors on entre dans une très grande discussion. Est-ce que c'est un art ou une science? Vous savez bien que ça a toujours été très secoué, ça. Il y a des artistes, il y a des médecins qui sont plus artistes, des médecins qui sont plus savants. Et l'art médical n'est pas un art dans toute sa pureté. Parce que justement, c'est un art qui doit aider la nature du vivant. Ars coadjuvans naturam, comme disaient les anciens. C'est un art qui doit aider la nature. Et donc, c'est un art qui n'a pas sa finalité propre. La finalité propre de l'art, c'est la forme artistique. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de l'art médical, c'est un art qui est au service du vivant, et parce qu'il est au service du vivant, il est pour que le vivant puisse être un vivant plein de santé. Alors c'est déjà très difficile, vous voyez, de voir ce point de vue d'un art qui n'est plus dans toute sa pureté. C'est comme l'art religieux, si vous voulez, ou l'art chrétien. Je ne commence pas par l'art chrétien pour savoir ce que c'est que l'art. J'essaie d'abord de savoir ce que c'est que l'art pour essayer de comprendre ensuite des modalités qui sont moins parfaites. Il faut savoir ce que c'est que l'art pour découvrir l'art médical. C'est pas par l'art médical que je découvrirai l'artiste. Ça, je crois que tous les médecins sont d'accord. Mais c'est pas par là. Parce que c'est trop complexe. Il y a le point de vue de la science et de l'art. Et puis, il y a ce fait d'être au service d'un vivant. On ne fait pas ce qu'on veut en médecine. Loin de là. On est au service d'un vivant. Et on doit essayer de l'aider. C'est la même chose au point de vue stratégique. C'est pas un art parfait. C'est l'art militaire. Et l'art militaire n'a pas non plus. C'est un art de défense. L'art sportif, ce serait un peu plus. Là, on arriverait au jeu, au sport, on est lié à la danse, et ainsi de suite. Vous voyez, mais j'aime mieux prendre, et c'est pour ça, et ça, c'est très volontaire. C'est très voulu, vous voyez. Le philosophe sait que c'est difficile de découvrir et d'analyser en profondeur. Alors il prend exprès les expériences les plus typiques. Il laisse tomber des autres expériences. Vous voyez, quand je dis que la philosophie commence par l'expérience du travail, l'expérience de l'amour d'amitié, l'expérience. Il y a des tas d'expériences que nous laissons tomber. Mais si vous êtes attentif, vous voyez que toutes les expériences que nous laissons tomber sont secondes et se rattacheraient à ces expériences types. Bien, c'est la même chose ici. Oui, c'est simplement ça qu'a expliqué. Alors, on va essayer de comprendre ce que représente cette notion du beau. C'est très complexe. Hein. Prenez tout simplement, en gros, si vous voulez, ce que vous dites quand un animal est beau, quand la nature est belle, quand une œuvre artistique est belle. Et dans les œuvres artistiques, hein, il y a tout ce que vous voulez. Quand vous direz qu'un chirurgien travaille avec élégance et beauté, il vaut mieux pas être patient, ça fait rien pour les autres, n'est-ce pas ? Vous pouvez regarder la beauté d'un outil. Il y a une beauté particulière d'un outil, il y a une beauté particulière d'un avion, d'une auto. C'est la beauté d'un outil. D'un certain temps, c'est du reste très curieux, c'est que cette beauté de l'outil, on la mettra dans les musées. C'est très significatif. faites-vous vous-même, ça c'est une petite expérience qu'on doit se faire soi-même. Je ne peux pas insister là-dessus parce que nous n'avons pas le temps, mais c'est très intéressant de voir toute la gamme dont on dit qu'une chose est belle dans le langage courant. C'est très net qu'est la beauté de la nature. Je ne suis pas hegélien. On dirait que la beauté de la nature a quelque chose de maternel. La beauté d'une forme. Une forêt équatoriale. C'est extraordinaire. Nos petites forêts d'ici, c'est pas grand-chose. Or, si la beauté implique la grandeur, on peut dire que dans la forêt équatoriale, on a la beauté de. Et c'est vrai, la végétation équatoriale a quelque chose de bien plus beau que la forêt, que une végétation de pays trop cultivés. Celle de la musique n'est pas celle de la poésie, n'est pas. Alors, tous les arts ont une beauté particulière. Il serait très intéressant de regarder la beauté particulière de la peinture, de l'architecture, de la danse. Chaque fois, c'est quelque chose de particulier. C'est pas du tout le même type de beauté, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un canon de beauté. Dire que la beauté est purement subjective, ce serait faux. La beauté n'est pas purement subjective, mais elle n'est pas uniquement objective. C'est pour ça que la beauté peut varier selon les époques. Ça, c'est sûr. On est plus sensible à certaines beautés. Vous voyez, quand on pense à certaines époques, on a détruit des petites églises romanes parce que tout simplement, il fallait l'agrandir. Notre époque, on ferait pas ça. Peut-être parce qu'on construit moins bien. On ferait pas ça. Parce que je crois qu'on a beaucoup plus de respect et qu'on est très sensible à certaines beautés d'église romane, qu'on n'était pas du tout sensible à certains siècles. On est très sensible à certaines beautés primitives aujourd'hui. Parce que sans doute qu'on atteint un sommet. Les extrêmes se touchent. Et quand on atteint un sommet d'une culture, on est très sensible à l'enracinement. On sent très bien ces choses-là, que ça varie. Alors c'est pour ça qu'on pourra parler de style de beauté. Le style romantique, le style classique. Ce sont des styles différents. Ce sont des beautés différentes et des beautés de types différents. Alors vous voyez, autrement dit, il y a une gamme. Faites-vous palette de tous les exemples et d'expériences de beauté que vous avez vues, que vous avez rencontrées. Et c'est bon, dans la mesure où on peut. Il faut autant que possible de voir des belles choses. Et dans un couvent comme ici, il faudrait au moins deux, trois belles choses qui permettraient de supporter le reste, vous voyez? Parce que ça permet de supporter. Alors, il y aurait deux, trois belles choses qui aideraient, c'est sûr, ça aide. On a besoin. On a besoin. Heureusement, pas très loin d'ici, c'est pas Palais, les bords de la Loire, c'est même beau. Il y a des choses qui sont très belles. Et on a besoin de temps en temps d'aller. D'aller comme ça auprès d'un paysage qui est beau. Et autant que possible, de belles œuvres d'art. Pas besoin d'une quantité, parce qu'il y en a trop. C'est plus, hein. Ça devient un musée, il ne faut pas que ce soit un musée. Quelques belles icônes, des choses qui sont belles. On en a besoin. Ça fait partie tout de suite. Il suffit quelquefois d'une statue belle pour créer tout de suite un climat. peinture qui est belle crée un climat. Alors, je crois que c'est important de comprendre ça dans notre vie. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que le beau? Je ne peux pas le définir. Je sais que je ne peux pas le définir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de canon de beauté, parce que s'il y avait un canon de beauté, ça voudrait dire qu'il y a une définition du beau. Je vois que la beauté est attachée à la connaissance. Et ça, je peux le dire tout de suite. Qu'il y ait une note affective, c'est bien évident, il y a la part du sujet. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est très curieux. Non, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question beaucoup plus d'intelligence. L'intelligence est plus présente dans l'expérience artistique que je peux avoir de certaines choses belles, voyez, que le point de vue purement affectif. Il y a la sensibilité, il y a l'imagination, il y a l'intelligence. La beauté, c'est le domaine de la forme. Je crois que je peux dire ça très vite. Que la beauté n'est ni le domaine de l'être, ni le domaine du vrai, ni le domaine du bien.
Comme tel. Mais l'artiste sera
dans une œuvre artistique, il faudra un certain vraisemblable. Pas toujours, du reste, surtout aujourd'hui. Parce que, je ne crois pas toujours. Anciennement, on disait qu'il fallait le vraisemblable. Il fallait une certaine similitude de vérité. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait faire attention. Parce que quand vous voyez Rilke parlant d'une œuvre belge, ce n'est pas tellement ça qui le séduit. C'est plutôt quelque chose d'étrange, qui fait peur. Ce n'est pas le vraisemblable. Alors ça, c'est une autre notion. Il faudra voir si au fond le vraisemblable fait partie vraiment de la notion du beau. Enfin, le génie du beau. Non. Il n'y a pas de logique de l'amour. Ça, vous savez bien. Pas de logique de l'amour. Et quand vous parlez logique à quelqu'un qui aime, il n'y a rien qui aime. Parce qu'il n'y a pas de logique dans l'amour. Alors le domaine de l'amour. Ah, ça. Le beau est relié à l'homme. Ça, c'est sûr. Il y a un lien très fort entre le beau et l'homme. Mais faisons attention. Ce n'est pas l'un propriété de l'être. Sûrement pas. C'est l'un relié à la forme. Au fond, c'est la détermination qui supprime toute indétermination. Mais là, là aussi, c'est très délicat, parce que ça dépendra des formes d'art. Il y a des formes d'art qui réclament une très grande détermination. Et des formes d'art qui, au contraire, suggèrent. L'art classique détermine, l'art romantique. Alors, entre deux, il y a beaucoup de demeures dans la maison du père. C'est évident, il y a des tas de choses. Mais au fond, c'est là la très grosse différence. Il y a un art classique qui détermine. Tout doit être. On ne peut rien ajouter. Rien. Absolument. Tout est déterminé. C'est le domaine de la détermination de la forme. Et alors, il y a une unité très profonde. L'art classique tend vers l'unité. L'art romantique tend vers l'infini. Ça revient au même. Hein. Unité et l'infini. C'est juste au contraire. Ça se touche. Et au fond, la forme est source d'unité. Peut-être aussi quelque chose qui ouvre. Qui ouvre. Alors il y a le rêve. J'ai commencé la promenade. Je vous la laisse. C'est très curieux. Le jeu de la détermination et le jeu de l'indétermination dans l'art. Dans la beauté, il y a les deux. Donc, je crois qu'on peut dire philosophiquement, quand on essaie de s'approcher, que de fait, le beau ne peut être que la forme victorieuse à la matière. C'est la définition que prend Plotin, et je crois que c'est la meilleure approche. La forme victorieuse à la matière, la forme qui s'épanouit pleinement, manière parfaite. C'est une forme parfaite, le mot. Parfaitement épanouie. Parfaitement elle-même. Et je ne dis pas la forme en soi, mais la forme victorieuse à la matière, parfaitement épanouie. Qui alors peut s'exprimer, peut se manifester, peut être celle qui est victorieuse de toutes les indéterminations. Je crois que c'est cela qui est le fondement de la beauté. Mais la beauté n'est parfaitement elle-même que quand elle est vécue. Ce qui plaît à la vue, dit saint Thomas. Alors, c'est quand elle est parfaitement vécue, c'est-à-dire quand elle est parfaitement connue. C'est la forme parfaite qui séduit mon intelligence liée à mon imagination, liée à ma sensibilité. toujours un apport subjectif à toute beauté. Et ça, je crois que c'est très important. Et c'est l'aspect vécu qui explicite parfaitement et totalement ce que c'est que le beau. Donc il y a un fondement objectif, et puis il y a cet aspect subjectif de celui qui est en harmonie vis-à-vis de cette forme. Au contraire, celui qui est beaucoup moins en harmonie. C'est pour ça que, de fait, le vieux dicton, n'est pas des goûts et des couleurs, on ne discute pas, et que le beau ne s'impose pas d'une façon absolue. Mais la vérité s'impose d'une façon absolue. On sait très bien que le beau ne s'impose pas d'une façon absolue. Et imposer le point de vue du beau à une quantité, non, on voit très bien que ce n'est pas tout à fait juste. Évidemment, il y aura des limites. On pourra dire, non, c'est vraiment, c'est pas très beau ce que vous chantez là. Donc, et tout le monde comprendra que ce n'est pas très beau. N'est-ce pas ? Et on dira, ce n'est pas très beau pour ne pas dire autre chose. N'est-ce pas ? Alors, et puis d'autres diront, mais oui, au fond, c'est après tout. Dans tel contexte, dans cette petite cour intérieure, pour elle, dans cet endroit. Mais, immédiatement, il y a le mais qui montre que c'est pas tout à fait ça. C'est très curieux. La notion, la réalité de beauté, la forme parfaite, réclame d'être vécue, c'est-à-dire d'être connu, aimé, pour que le beau s'épanouisse parfaitement. Alors, c'est là où je pourrais dire tout de suite qu'il y a deux modalités du beau, un petit peu analogues aux deux modalités de la vérité. Il y a la vérité qui est le vrai ontologique, comme on dira la scolastique, et la vérité formelle qui est dans l'intelligence. Quand vous dites quelque chose de vrai, cette vérité, elle est dans l'intelligence. Elle qualifie la proposition, l'énonciation du jugement. La vérité, elle est dans le jugement. Et c'est la vérité formelle qui est dans le jugement. C'est ce qu'on appelle la vérité formelle. C'est-à-dire l'adéquation de ce que je dis avec la réalité. Et alors, je dirais, mon jugement est vrai. Je vous énonce quelque chose de juste et quelque chose de vrai. Et la vérité ne sera, le vrai ne sera dans la réalité que d'une manière fondamentale. Jamais formellement. Autrement dit, le vrai n'est parfaitement vrai que dans la connaissance. place un imbécile qui comprend rien. Je devenais farouche, hein, très curieux. C'est mauvais, quand on est en face de quelque chose qu'on a l'impression que, qu'à côté, on a quelqu'un qui comprend rien. C'est pas du tout la même réaction qu'à l'égard de l'amour. C'est très curieux. Tandis que l'égard de la beauté, on est un peu farouche, parce que c'est de l'ordre de la connaissance. Et quelqu'un qui ne saisit rien du tout ou à la beauté d'une œuvre d'art, c'est échelon. C'est parce que c'est bête. Vous voyez, c'est la connaissance. C'est pour ça que ça nous irrite tout de suite. Ça met un peu de sensibilité artistique. Ça nous irrite tout de suite. Ça nous irrite beaucoup moins lorsqu'il s'agit d'amour. Elle pourrait quand même goûter, quoi. C'est beau. Oui. Il y a comme une espèce de proportion beaucoup plus nette, beaucoup plus forte de l'intelligence, de nos capacités de connaissance à l'égard du beau, où on a comme un lien de connaturalité beaucoup plus forte qu'à l'égard du bien. Le bien est toujours un peu secret. Le beau n'est pas secret. Le beau demande de se manifester, de se dire. Il demande de se proclamer. Un poète demande de dire la poésie. Intelligent, compréhensible. Et si le public ne comprend rien, il dira, pas étonnant, vous êtes des invisibles. Et le poète se replie sur lui-même en disant, je suis 20 ans en avance vis-à-vis de vous. Tu vois, et c'est une manière de se défendre, vous voyez, parce que il y a quelque chose, c'est ça qui est très curieux, parce que le beau est vraiment dans l'artiste. Troisième forme. Réalise quelque chose. Quand j'ai une idée de réalisation artistique. Puis quatrième forme de beauté, l'œuvre. Alors l'œuvre prise pour elle-même, une œuvre parfaite, une œuvre ultime, deux types de beauté différents. Facilement, nous pouvons discerner ces diverses formes de beauté. Et nous voyons que partout, c'est toujours la forme parfaite qui arrivera à faire dire à saint Thomas que la beauté, c'est la splendeur de la forme. J'aime beaucoup cette manière de dire. Je crois que c'est la plus juste. La beauté, c'est la splendeur de la forme. C'est la gloire de la forme, la beauté. Splendor forme. Alors la splendeur formée, vous voyez, présuppose une proportion, présuppose une harmonie, mais c'est plus que cela. La splendeur, c'est plus que l'harmonie. La splendeur, c'est plus que la proportion. La splendeur de la forme, c'est la forme qui éclate. C'est un beau jour qui éclate. C'est quelque chose de beau, quelque chose d'assez unique. La forme existe, mais elle est à son acmé, elle est à son sommet. C'est pour ça que la beauté est un instant. Et l'artiste arrivera dans son œuvre d'art à préciser cet instant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de fugitif dans la splendeur de la forme, dans une forme qui touche un sommet. Pas aller plus loin. Et on est comme ça, vous voyez, quand vous regardez une belle fleur. Il y a un moment d'accueillir. Et puis, il irait le lendemain pour être accueilli à des petits yeux. Il y a un moment. Pourquoi ? Parce que c'est la splendeur de la forme. C'est pas la tombée de la forme. Tu vois ? C'est pas la vie montante. C'est pas la vie montante, c'est un sommet. c'est la forme intelligée, connue. C'est la forme idéale, c'est la forme. C'est une forme de mesure. C'est encore une perfection de forme. Puissant l'œuvre, l'œuvre parfaite, l'œuvre utile. C'est une œuvre donc qui possède la forme qui lui convient pleinement. Et il y a dans cette forme une espèce d'harmonie, de plénitude qui fait qu'elle est capable de séduire. Toute forme possède son intelligibilité. Mais une forme parfaite, la splendeur de la forme, est capable de séduire. Et c'est peut-être cela qui va le mieux préciser, vous voyez, ce que c'est que le beau. Et c'est dans cette séduction, parce que l'homme séduit par le beau. C'est dans cette séduction où je découvre le beau le plus exclusif au-dedans de moi-même. Il est caché en moi. Je le connais. Et au fond, on a toujours l'impression, quand on a saisi quelque chose de très beau dans son instant comme ça, que c'est quelque chose qu'on a saisi et qu'on ne pourra pas retrouver. À cause de la splendeur. C'était que la forme, on pourrait le retrouver. On a tous fait cette petite expérience. À certaines choses, on a découvert surtout un pays qu'on découvre. On voit, on a eu un œil magnifique dedans. Puis on vient le lendemain. C'est l'élément subjectif. Oui. Et dans la séduction, vous êtes entièrement mobilisé. Et c'est peut-être à cause de ça, vous voyez. La séduction nous mobilise pour nous permettre d'être entièrement attentif à la forme, à la splendeur de la forme qu'on atteint. Si vous n'êtes pas entièrement attentif et mobilisé pour saisir cette forme, vous ne la saisirez pas. Vous ne serez pas séduit. Et alors, vous n'aurez pas ce petit moment particulier. Je peux donc dire que le beau, vous voyez, c'est pas une définition, mais c'est négativement, que le beau, c'est le sommet de la forme. Et là, je retrouve le point de vue de l'un comme un sommet. Je le retrouve comme quelque chose d'indivisible. Je le retrouve aussi comme quelque chose de fugitif. Le beau est fugitif. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, je peux me poser la question. Le beau est-il un transcendantal? Vous allez dire, c'est une question critique. Alors, ici, c'est une question critique. Du reste, toute cette question de précision de la notion du beau, c'est pas une question au sens strict de philosophie de l'art, c'est beaucoup plus une question critique. Je ne peux pas dire que le beau est un transcendantal. Dans selon la notion du transcendantal de saint Thomas. Ce n'est pas du tout le transcendantal de Kant. Hein. Ne confondez pas entre les deux. Hein. Et vous voyez bien toute la différence qui existe entre les deux. C'est saint Thomas employait le mot transcendantal avant Kant. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc il avait le droit de le dire. Et Kant, en employant le même mot, devait préciser que ce n'est pas du tout dans le même sens. Transcendantale dans le saint Thomas, la raison transcendantale, c'est de montrer qu'une notion est transcendantale quand elle est convertible avec la raison d'être. C'est la définition classique de ce que c'est que le point de vue du transcendantal. C'est quelque chose qui est convertible avec la ratio ethicis. Cinq transcendantaux.
Son incarnation dans cette
regarder l'esprit en tant qu'il est incarné. Parce que l'esprit, en tant qu'il est incarné, est conditionné. Il dépend du devenir. Et s'il dépend du devenir, c'est une notion analogique, et parmi les notions analogiques,